Bon, donc je vais essayer de parler un peu de l'espoir, du système nerveux et de la cognition et de la motivation. Tout d'abord, question de définition. Donc, en termes d'étymologie, de sémantique, le mot espoir vient donc de Esper, 12e siècle, mais beaucoup plus renvoie au latin. Il est également lié à un autre substantif, expectation, expectatio, expectare, et on trouverait les mêmes origines dans toutes les langues latines, évidemment. Dans les langues anglo-saxonnes, simplement pour prendre celle-là, on va trouver de nouveau, vous voyez, expectans, to expect, expectare, en allemand, Hoffnung, mais aussi Erwartung, Erwarten. Donc finalement, et le mot R ici est important parce que, par exemple, je ne vous ai pas mis le grec, mais on fait la différence entre Elpis, l'espoir, et Elpis, E, qui indique que c'est un espoir entaché moins de crainte que Elpis seul. On fait donc un peu la différence entre l'espoir lié au doute et l'espoir lié plutôt au succès. Et alors ensuite, bien sûr, on a le trépied, espoir, espérance, espérer, et puis tous ces mots qui sont intimement liés les uns aux autres. Par exemple, nous avons des collègues arabes dans mon laboratoire, eh bien, en arabe, le mot, on ne peut pas dissocier espoir de souhait, pratiquement. Attente, vous voyez, prédiction, prévision, anticipation. Et vous pouvez déjà percevoir, d'une certaine façon, que dans espoir, espérance, il va y avoir un élément mêlé, des instances mêlées, qui renvoient à la philosophie, qui renvoient à la littérature, qui renvoient à aussi la religion, la métaphysique, l'espérance, évidemment, qui est une vertu théologale avec la foi, l'espérance et la charité. Donc, et espérer. Et on voit que c'est un ensemble relativement indissociable. Et par ailleurs, on voit dans d'autres verbes et substantifs qu'il va y avoir une connotation beaucoup plus analytique, prédiction, anticipation, prévision, qui vont renvoyer à des processus de type plus rationnel. Donc on voit bien là que l'espoir ne peut pas être qu'un sentiment, qu'une émotion, même s'il l'est, et que l'espoir est autre chose et vraisemblablement renvoie à des instances d'ordre analytique et cognitive. Donc l'espoir est un peu tout ça. Alors, à partir de là, comme je vous l'ai indiqué, le mot espoir a surtout été utilisé par, bien sûr, les romanciers, les littérateurs, les poètes, on peut dire depuis l'Iliade et l'Odyssée, en passant par les poètes galants, Ronsard et l'espoir de la belle qu'il allait chercher, l'espoir plus structuré chez Dickens, l'espoir, y compris in fine, bien sûr chez Malraux. Bref, ces mots reviennent régulièrement dans le roman, comme bien sûr ils vont revenir beaucoup dans la philosophie, et dans la philosophie bien sûr chrétienne, ça sera l'espérance évidemment, dans la philosophie qui sera d'ordre plus existentialiste ou qui renvoie à la phénoménologie, sera bien sûr l'espoir, je dirais, sans grand dessein, l'espoir en soi, l'homme n'est pas désespéré, que ce soit chez Sartre ou chez Camus, évidemment. Et il y a donc beaucoup d'utilisation de ces mots. Par contre, en biologie, il y a très peu d'utilisation du mot espoir en tant que tel. Et nous verrons que finalement, en neurobiologie, c'est un concept qu'il faut analyser de façon indirecte. Parce que il est déjà, comme je le disais tout à l'heure, trop mêlé, trop intégré, trop intégratif. Et néanmoins, cette approche neurobiologique, naturaliste, nous renvoie d'abord à un grand philosophe. Bien sûr, Aristote. Aristote contemplant le buste d'Homère par Rembrandt. On ne peut pas parler de la naturalisation, quelle qu'elle soit, et de la naturalisation de l'esprit, sans évoquer Aristote, qui est, on peut dire, même si ce n'est pas vraiment le premier, le père du naturalisme. Et le fait de vouloir expliquer de façon naturelle l'ensemble des phénomènes, et particulièrement les phénomènes de la vie, et les phénomènes de la pensée, et de la raison et des émotions chez l'homme. Bien sûr, c'est entre autres l'éthique à Nicomaque. Et Aristote, d'une certaine façon, a rompu, comme il le disait, ami de Platon, mais encore plus ami de la vérité, qui lui a été, on peut dire, le précurseur, le père de l'idéalisme, de la spiritualité, de façon indirecte et progressive. Disons qu'Aristote s'est opposé à l'eidétique platonicienne. Rien n'est si ce n'est dans la nature. C'est sûrement une des phrases qui résume le mieux son œuvre. Et ce qui est important, c'est que Aristote a marqué son époque, de 400 à 300 avant Jésus-Christ, à un moment d'ailleurs où d'autres se sont intéressés aux phénomènes biologiques. Et c'est difficile de dissocier Aristote d'Hippocrate à ce moment-là dans l'explication des phénomènes naturels. Il ne faut pas oublier que parmi les grandes maladies qu'a décrit Hippocrate, son raisonnement, qui lui a servi donc à décrire, à comprendre ces maladies, se basait, vous le savez, sur la théorie des humeurs, l'humorisme, qui se basait sur les quatre grandes humeurs, la bile jaune, la bile noire, le flegme ou pituite et le sang, et que c'était toujours la règle des quatre, vous savez, depuis Empédocle d'Agrigente. Et c'est cette théorie de l'humorisme qui vaut encore aujourd'hui, il ne faut pas l'oublier. Mon maître Vincent parle du cerveau sec et du cerveau mouillé, humide, du cerveau humide. C'est les humeurs. Nous sommes baignés d'humeur, même si nous avons quelques réseaux câblés, hard. Nous avons beaucoup de soft humoral. Eh bien, Hippocrate a été sûrement un des premiers à décrire par les humeurs une des plus grandes maladies de la psychiatrie, la maladie de l'espoir, la maladie de la tristesse, du désespoir, la mélancolie. Et il l'expliquait, par, vous le savez, l'accumulation anormale de la bile noire, de l'atrabile, cette bile noire qui crée à un moment donné une dyscrasie, rompt la crase, et par là même va intoxiquer, va irriter les organes, quels qu'ils soient, et particulièrement le cerveau. Et au niveau du cerveau, il va donner cet état de prostration que l'on voit ici dans cette œuvre de Moenck, et surtout déjà dans cette œuvre de Ajax prostré, qui date du 1er siècle avant Jésus-Christ. Donc, ou encore, pour faire plaisir, bien sûr, à Jean-Marie Caillé, cette célèbre œuvre de Dürer, La mélancolie. La bile noire, mélancolie, mélane collée, la bile noire. On n'a fait que transposer mélancolie, on a transformé bile noire en mélancolie, en maladie. Irritation du cerveau, création de cet état d'abandon, d'aboulie, de désespoir, de tristesse, où, diront plus tard les psychanalystes, le thanatos l'emporte sur le bios, sur la vie, le principe de mort l'emporte sur le principe de vie. Cet état qui nécessitait déjà un traitement. Le pharmacon est déjà décrit par Hippocrate. Il utilise l'hélébore. L'hélébore extrait d'une plante, l'héléborus. Et cet hélébore qu'est-ce qu'elle fait comme action sur le corps? Elle irrite, elle congestionne les muqueuses, et par là même, elle va créer des saignements, avec des vomissements, avec des hémorragies rectales, des mélénas. Et on pensait à ce moment-là qu'on évacuait la bile noire. Et cette théorie des humeurs était déjà une preuve formidable du naturalisme de l'explication d'une maladie, certes, pour partie romantique, encore que les humeurs vont perdurer. La théorie des humeurs et de l'homéostasie va perdurer. Elle est encore particulièrement vivace et vivante. Elle va perdurer, elle va être remise particulièrement en avant par Galien, qui, lui, va situer le siège de la production de bile noire dans la rate. Spleen, splenis, le spleen vient de là. Le spleen de Baudelaire et des Anglais vient de là. Donc, et que fallait-il faire? Face à l'opilation, c'est-à-dire à la congestion de la rate en bile noire, il fallait inciter le sujet à rire, à désopiler, à décongestionner la rate. Bref, il y a dans ces explications une approche, bien sûr, comme je disais tout à l'heure, romantique, une approche littéraire, mais néanmoins un déterminisme, une volonté déterministe, une volonté d'aller vers une causalité, de définir des principes de causalité, et par là même de trouver des traitements. Et on peut dire que cette maladie assez exemplaire et terrible, une des plus graves, une des plus grandes maladies, je dirais, au-delà de la psychiatrie, a été particulièrement étudiée par ces Grecs jusque donc au début de notre ère. Il est sûr que le Moyen-Âge, la Renaissance, a quelque peu atténué ces approches. Pourquoi? Parce que, entre autres, l'explication religieuse s'opposait déjà à ce problème de l'explication naturelle. Néanmoins, il est intéressant de voir que chez des psychiatres du 18e et du 19e, particulièrement Esquirol, Carmel, cette notion de bile noire qu'il fallait évacuer, ou d'humeur qu'il fallait évacuer, on parlait plus trop d'atrabile, de bile noire, était encore très vivante. On proposait encore à l'époque des décongestions du cerveau par l'application de sangsues sur les régions temporales, par des saignées, par des sialagogues pour faire évacuer ces produits toxiques. Donc on peut dire que finalement le chemin a été long, et je dirais qu'avec l'évolution maintenant de la neurobiologie, certes on n'en est plus à la bile noire, mais on sait combien les humeurs, les substances chimiques, les neurotransmetteurs vont prendre petit à petit dans la régulation du système nerveux, dans toute cette partie mouillée, humide, hormonale, humorale, neurotransmettrice, une place prépondérante. Donc, cette notion de naturalisme existait déjà. Et un autre homme va également, à mon sens, jouer un rôle majeur dans non seulement le naturalisme, c'est-à-dire les bases naturelles de l'esprit, mais surtout, il va à une époque, justement, comme je le disais tout à l'heure, où la pensée religieuse métaphysique était prégnante et peu concessive, même quelquefois fortement répressive, il va poser les principes du monisme par rapport au dualisme. Finalement, on peut dire que le dualisme, au départ, il a été créé respectivement par Platon et par Aristote, après avec des évolutions extrêmement complexes, mais que d'une autre façon, avec Spinoza, on arrive à l'impossibilité de dissocier l'esprit du corps. C'est un tout. C'est la position moniste. Et est-ce que, d'une certaine façon, Spinoza a eu son Platon en la personne de Descartes? Peut-être, puisque c'est ce qu'essaie de dire Damasio dans ses deux livres, l'erreur de Descartes, dissocier la raison des émotions, et par ailleurs, les émotions plus proches du corps et bien sûr la raison plus proche de l'esprit. Et au contraire, Spinoza estimant qu'on ne pouvait pas dissocier les émotions de la raison, que tout processus de fonctionnement psychique implique des fonctionnements qui associent les instances qui relèvent de l'instinct, de la motivation, des émotions et de la raison et du raisonnement. Spinoza a été un homme extrêmement important dans l'affirmation, on peut dire, du monisme et l'établissement, le fondement, le scellement de la pensée moniste qui allait permettre plus tard d'aborder le système nerveux d'une façon systématique. Et c'est ainsi que, finalement, on va aller vers l'interrogation de l'espoir, des éléments qui constituent l'espoir, et des régions, des réseaux, des circuits de notre système nerveux qui peuvent supporter un sentiment, une instance de cognition aussi complexe. Il est normal, dans une conférence introductive, d'évoquer un autre homme qui se rapproche petit à petit de nous, qui est Gall, Franz Joseph Gall, qui est un médecin allemand qui a travaillé beaucoup à Vienne et qui, vous savez, a été le premier à faire une théorie un peu romantique des localisations, uniquement en étudiant la configuration du crâne. Et comme ça, sur 400 crânes, avec des études corrélatives comportementales, de tendances, de pulsions, il a décrit toute une série de bosses qui renvoyaient à des fonctions, telles que la capacité à analyser les couleurs, la mémoire, le discours, la passion, la persévérance et l'espérance, l'agression, et puis aussi des fonctions un peu particulières, par exemple la capacité destructrice. Il avait remarqué comme ça que chez un collègue à lui, qui était enfant et qui aimait torturer les animaux, il avait une certaine bosse dans la région frontotemporale et que ce garçon était devenu par la suite chirurgien. Et par ailleurs, il avait pu observer, il avait décrit ça aussi chez un apothicaire qui était devenu bourreau. Il avait aussi décrit la bosse de la capacité à s'accaparer. Il avait remarqué que dans la région plutôt frontale, il y avait une anomalie et les gens qui présentaient ça étaient volontiers pickpocket. Mais bon, c'était une approche localisationniste, mais sûrement extrêmement approximative. Mais néanmoins, il fut chassé en 1805 de Vienne par François II pour matérialisme et athéisme. Il s'est réfugié en France, où d'ailleurs l'Académie des sciences ne l'avait pas très bien reçu, mais néanmoins, on lui avait permis de travailler. On lui avait quand même donné crayon et papier, ce que fait souvent le CNRS pour les chercheurs réfugiés. Mais nous allons arriver à la véritable époque du localisationnisme. Et là, bien sûr, on ne peut pas parler de cette époque sans citer les deux grands bordelais. D'une part, Magendie pour les fonctions de la moelle sensorimotrice et Broca, bien sûr, pour le langage, mais bien plus que le langage, avec le célèbre cerveau de Le Borgne ici et sa lésion au niveau du pied de la frontale. Donc, chemin faisant, cette notion de naturalisme en matière d'étude du système nerveux va vers le localisationnisme pour aboutir aux classiques représentations corticales de Von Economo et ici de Brodmann, où l'on essaie d'associer des territoires précis qui ont une architectonie précise et qui sont censés supporter une fonction précise. Relation structure-fonction. Et on peut dire que toute notre génération a quand même été élevée dans cet esprit-là et que, petit à petit, et nous le verrons, la substitution du localisationnisme par l'approche des réseaux et d'un système qui n'est plus hiérarchisé comme cela, même s'il existe, mais qui fonctionne de façon parallèlement distribuée, a mis du temps, et on peut dire aujourd'hui, les ordinateurs ont bien aidé, chacun a copié chacun, néanmoins, on peut dire que La théorie localisationniste est une théorie qui reste encore, en tout cas en clinique quotidienne, particulièrement utile. Moi, je sais, justement, quand j'étais encore interne, où je faisais de la neurophysiologie avec mes maîtres Vincent et Cardo, et j'expliquais que le système pyramidal, ça n'existait pas, etc. Et j'avais régulièrement droit à des remarques du genre « Ah bon, et celui-là qui a une hémiplégie, tu vas regarder où ?» Ben voilà, bon, c'est clair. Bon, il faut rester quand même modeste. Donc, ce localisationnisme a donné la possibilité à la neurophysiologie moderne, au niveau de l'électrophysiologie, de montrer de fait que les territoires néocorticaux, dès lors qu'ils étaient primaires, avaient des fonctions très précises en matière de codage. C'est ainsi, ça c'est un travail de Seymour Zeki, grand neurophysiologiste de la vision, qui montre que dans un des secteurs du cortex visuel, vous avez des neurones qui vont coder la couleur, et ici vous pouvez voir que ces neurones ne déchargent que pour des longueurs d'onde longues dans le rouge et pas du tout pour les autres. On peut dire que là c'est très rigide. Ce sont des neurones qui sont excessivement codants, précis. Néanmoins, et c'est là finalement où des gens comme Damasio et d'autres ont fait évoluer, Vincent, il faut quand même donner à Vincent son rôle majeur dans les comportements, les liens entre le comportement et la cognition, ont montré, chemin faisant, qu'il fallait remonter des réponses très métaboliques vers l'organisation de besoins, de motivations, de comportements primaires, l'émergence d'émotions, de sentiments et l'analyse rationnelle entre sentiments et cognition. On retrouve là, finalement, au travers de l'arbre de Damasio, la pensée éthique de Spinoza. Et on peut dire, néanmoins, que ceci n'est pas sans lien avec des données actuelles qui sont très fortes aussi pour montrer que les neurophysiologistes commencent à analyser, à détecter, à décrypter les bases neurales de fonctions complexes qui sont, comme l'espoir, mais sûrement peut-être pas autant, très liées à la cognition et à la motivation et à l'émotion. Ici, il s'agit de l'empathie avec les fameux neurones miroirs de Rizzolatti, qui ont été décrits, vous le savez, vers les années 1994, c'est très récent, où finalement Rizzolatti, étudiant le cortex pariétal, les régions 5 et 7 du cortex pariétal chez le primate, observe qu'il y a des neurones de commande dans cette région-là. Nous y avions travaillé avec Vincent, Christian et quelques autres à l'époque, et nous avons été mauvais, nous ne l'avons pas vu. Ça, nous l'avons vu, mais le reste, nous ne l'avions pas vu. Où ces neurones déchargent en anticipation du mouvement quand l'animal attrape sa cacahuète, mais beaucoup plus important, c'est le fait qu'il avait observé que dans certains cas, les neurones déchargeaient et il voyait le singe ne rien faire, il ne comprenait pas. Et un beau jour, il a vu que les neurones déchargeaient quand c'était l'expérimentateur qui attrapait la cacahuète, c'est-à-dire que le singe regarde l'expérimentateur faire un geste qu'il sait faire lui-même. Et bien sûr, est-ce de l'empathie ? Est-ce l'explication de la théorie de l'esprit ? Se mettre à la place d'eux, hein, il est sûr que ce sont là des traces relativement dures de ces mécanismes. Et à partir de là, estimer que dans des fonctions, des dysfonctions graves du mentalisme, ces régions puissent être atteintes, particulièrement dans des syndromes d'Asperger ou dans des autismes, il est sûr que ceci n'est pas prouvé, loin de là. Peut-être qu'un jour, on aura des éléments. Est-ce que c'est suffisant d'avoir ces éléments pour dire que c'est tout explicatif en cela ? Sûrement pas. Mais néanmoins, ce sont des traces fortes que le système nerveux, dans des secteurs associatifs, nous sommes dans le pariétal, on a trouvé récemment des neurones en miroir comme cela au niveau de la région préfrontale. Ce sont là quand même des traces fortes, des marqueurs forts pour dire que les régions associatives vont bien au-delà dans le codage, dans le traitement central de l'information, bien sûr que le simple codage, par exemple, que d'une couleur ou du fait d'une sensibilité que l'on va stimuler en appuyant de quelques millimètres sur la pulpe du doigt. Donc, il y a eu des progrès considérables qui, aujourd'hui, laissent penser que la neurophysiologie peut apporter certaines réponses sur des fonctions complexes, des fonctions motivationnelles, émotionnelles et cognitives, ou mêlées. Et ceci nous amène à des travaux qui ont été faits sur l'espoir. En effet, dans les années 90-92, une équipe de psychiatres et de radiologues ont bâti un questionnaire qui tentait de faire ressortir des items pour susciter sentiments, valences, instances d'espoir ou au contraire de désespoir. Et ils ont regardé en caméra à positon, mais là en consommation de glucose, quelles étaient les régions qui modifiaient leur activité. Eh bien, la région qui modifie le plus son activité dans les aspects espoir ou désespoir, d'ailleurs, c'est la région du lobe temporal gauche. Il faut dire que c'est un travail approximatif, que le questionnaire pour un neuropsychologue laisserait hautement perplexe et rêveur, et que, en plus, il n'y a pas eu de réflexion systématique, surtout par rapport aux travaux de l'époque, sur la façon dont pouvait se construire cette notion, cette valence de l'espoir. Et là, nous revenons donc à notre petit schéma initial, et nous allons analyser cette partie-là. Donc, nous avons vu tous ces substantifs qui pouvaient avoir un lien avec l'espoir, cognitif ou motivationnel. Quoi qu'il en soit, ils sont intimement liés à la motivation. Que la motivation, et ça, énormément de neurophysiologistes, de psychophysiologistes, de psychologues expérimentalistes, de psychiatres, admettent que la motivation implique deux éléments majeurs, le besoin qui contribue à la régulation métabolique, à l'homéostasie, qui doit aller vers une satisfaction, et à un niveau plus analytique, le désir, qui lui va vers le plaisir, l'ensemble, bien sûr, se mêlant in fine. Et tout ceci passe par l'émergence, dès lors que cette motivation liée à ces processus plus haut situés se met en place, par la notion de pulsion, de tension vers ce que les anglo-saxons appellent le drive, l'énergie vitale, l'énergie, la pulsion. Les psychiatres utilisent ces termes dans le désespoir. Ce que encore les psychophysiologistes et auteurs anglo-saxons, particulièrement Penskep, appellent le seeking, l'impatience exploratrice, n'est-ce pas ? L'aiguillonnement, le seeking, très lié au système dopaminergique, à tel point que Penskep donne une très bonne description de cela. Il dit que c'est finalement ce système qui met en jeu, nous allons le voir, ce seeking, est une sorte de goad without goal, c'est-à-dire d'aiguillon sans but, du moins au départ. Du moins au départ. Goad without goal, je trouve que c'est une très belle expression. Néanmoins, il y a cela, mais aussi l'espoir-prédiction, c'est-à-dire l'aspect plus analytique, qui va lier la motivation à la certitude ou à la certitude, à la probabilité. Probabilité d'aller vers la satisfaction et le plaisir et la joie. Incertitude qui peut aller vers la crainte, et nous le verrons dans des séries de neuropsychologie et d'études IRMF tout à l'heure, le soulagement, le relief, le soulagement, ouf, mais aussi la déception, qui peut aller vers un stade plus élevé, le regret, le désespoir, la tristesse et possiblement la mélancolie. Donc, nous allons regarder, tu reviens en arrière, le premier point, c'est-à-dire celui-là. Et là, je ne peux m'empêcher de vous montrer une vieille diapositive de mon maître Jean-Didier Vincent. J'étais à ce moment-là quand même dans la publication avec Elisabeth Arnaud. C'est une belle époque. Où, à l'époque, nous travaillons sur les noyaux, le noyau supraoptique, sur les ossements récepteurs de Vernet, qui, vous le savez, code le manque en eau, code l'osmolalité plasmatique. Bien là, vous voyez un neurone du noyau supraoptique chez un singe éveillé, vous faites une injection de sel dans la carotide, et immédiatement, le neurone se met à décharger, un peu tout à l'heure, comme tout à l'heure, votre neurone visuel pour la couleur, ça vous code, et si vous faites un petit peu d'analyse statistique, vous allez voir qu'il y a une relation quasi linéaire, au moins dans un espace borné, entre l'osmolarité et la fréquence de décharge. Il y a un codage quasiment parfait. Et puis, si vous faisiez à ce moment-là, entre les deux, une injection d'eau, ça s'arrête tout de suite. Tac. Mais ça, c'est l'hypothalamus antérieur, le NSO. Si maintenant, on regarde, et ça, on l'a trouvé par hasard, des neurones qui se situent à côté du NSO, mais qui sont dans l'hypothalamus latéral, ils ne sont pas dans le NSO. À l'époque, ça, on appelait la périnucléaire zone. Et en fait, la zone périnucléaire, c'était l'hypothalamus latéral. Bien là, on va trouver aussi des neurones qui peuvent être sensibles à l'osmolarité, mais pas d'une façon aussi codante. Il y a une augmentation s'il y a un besoin. Par contre, ce qui est beaucoup plus important, ce sont des neurones qui s'arrêtent de façon très importante, qui diminuent leur fréquence de décharge dès que l'animal se met à boire. Et ceci en anticipation de la correction à venir. En définitive, c'est un neurone qui anticipe la correction à venir. Ces neurones n'existeraient pas, on boirait pendant 20 minutes, le temps de rétablir l'osmolarité plasmatique. Donc là, vous avez déjà un signal d'anticipation, de prédiction de l'effet correctif du comportement. Et bien sûr, nous étions dans un état désirant. Le singe est désirant. Il a soif, il a envie de boire. Tout son drive est dirigé vers le comportement de boisson, le comportement moteur qui va le satisfaire. Mais immédiatement, un processus d'anticipation, de prédiction est mis en route au niveau de l'hypothalamus latéral. Et cet hypothalamus latéral est une zone particulièrement importante. On ne peut pas évoquer l'hypothalamus latéral sans rappeler qu'en 1954, donc bien avant les expériences que je vous ai montrées tout à l'heure, c'est 1971-1972, Holz et Milner à Montréal montrent que dans l'hypothalamus latéral, ils ne savent pas qu'il y a le système dopaminergique à ce moment-là. Ils travaillent sur l'apprentissage, ils travaillent des zones qui facilitent l'apprentissage. Montrent que si on implante des électrodes dans cette région, eh bien l'animal, si les électrodes sont bien implantées, et l'animal, dès lors que les électrodes sont reliées à la distribution de choc électrique par une pédale, ne va cesser de se stimuler, de s'auto-stimuler. C'est la découverte du système de récompense. En définitive, l'hypothalamus latéral, déjà, on le perçoit, est un lieu particulièrement important, diapositive suivante, qui est un lieu de convergence, qui est ouvert, c'est ce qu'appelle encore lieu ouvert, Panskep, le lieu ouvert, entre le milieu intérieur, le milieu extérieur, mais aussi qui met en lien les systèmes corticaux, sous-corticaux et du tronc cérébral, les aires cognitives avec les zones sous-corticales, et bien sûr, le tronc cérébral, et nous allons le voir, la substance noire et l'aire tegmento-ventrale, le système dopaminergique, et qui va donc intégrer le besoin à un système de renforcement positif qui va contribuer à bâtir un comportement désirant, un comportement finalisé, un comportement qui sous-tend l'espoir de voir ce comportement assouvi, satisfait. Et, bien sûr, le système dopaminergique est décrit par, bien sûr, plusieurs équipes, particulièrement celle de Glowinski, sur les noyaux gris centraux, à partir de la substance noire pars compacta, mais aussi à partir de l'aire tegmento-ventrale, ça c'est l'aire à 9, ça c'est l'aire à 10, qui va innerver tout le cortex frontal, préfrontal, que nous avons indiqué tout à l'heure, sur lequel nous allons revenir, qui a été particulièrement étudié par l'école bordelaise, par Simon, par Lemoyle et par Louis Stinus, et qui ont commencé à travailler sur ces grandes thématiques alors qu'ils étaient chez Cardo. On peut dire qu'il y a eu là tout un travail majeur. Et cette région-là, vous le voyez, cette région-ci, qui forme ce qu'on appelle le faisceau médian du télencéphale, traverse l'hypothalamus latéral. Donc on est face à des systèmes qui, à la fois, vont apporter des éléments motivationnels, dirigés vers une finalité, qui sera précisé au plus haut niveau par les régions sous-corticales pour la motricité et corticales pour tout ce qui relève de l'analyse in fine des émotions et des comportements finalisés cognitifs, et que cet ensemble est indissociable. J'indique, chemin faisant, que la grande maladie de ce système, c'est la maladie de Parkinson, où vous voyez ici la substance noire, c'est des images qui nous ont été prêtées par Bertrand Bloch, c'est le professeur Vital, ce sont des images de la substance noire pars compacta, le tronc cérébral, la région mésencéphalique, où l'on voit une substance noire normale, et vous avez ici une substance noire de Parkinsonien, où vous n'avez plus cette pigmentation particulière qui correspond à la pigmentation due à la présence de neurones dopaminergiques. Donc là, vous avez la substance noire, et vous avez dans la région médiane ce qu'on appelle l'aire tegmento-ventrale. Cette partie-là va projeter surtout sur les noyaux gris centraux, et la partie centrale va surtout projeter sur le cortex préfrontal, orbitofrontal, dorsolatéral préfrontal, singulaire antérieur. Les grandes régions impliquées à la fois dans l'analyse de phénomènes cognitifs, mais aussi l'émergence de processus motivationnels, émotionnels. Je rappelle simplement pour mémoire cet ensemble ici, et l'organisation de base de cette circuiterie où vous avez le cortex, la substance noire qui est ici, avec les deux grands systèmes régulateurs qui passent par les noyaux gris centraux, ici par le pallidum, le noyau sous-thalamique, le pallidum interne, la sortie par le thalamus et le cortex, et ici le striatum, qui est riche en neurones GABAergiques et qui présente des récepteurs dopaminergiques D1 et D2. Ça, c'est la boucle classique, et ces boucles doivent être déclinées, comme je vous l'indiquais tout à l'heure, en boucle strictement motrice, c'est celle-là, mais en boucle aussi dorsolatérale préfrontale, ça va être le circuit de l'attention et de la mémoire de travail. En boucle orbitofrontale, nous y reviendrons tout à l'heure, c'est une boucle qui analyse des éléments motivationnels et émotionnels sur la valence d'une erreur, l'émergence d'éléments comme la déception et le regret, et la boucle limbique, qui elle aussi est impliquée par le cortex singulaire antérieur, surtout dans la détection des erreurs lors de la planification de l'action. Et là, le système qui commence à se mettre en place avec la construction de la motivation à partir de l'expectation et de l'espoir. La motivation va créer un liage entre l'attention, bien sûr l'ensemble des mémoires internes, qui fera émerger le processus intentionnel, la programmation motrice, la décision, l'exécution, succès, erreur. S'il y a succès, la motivation s'atténuera. S'il y a erreur, la motivation fera en sorte que l'on aille vers un mouvement qui ne sera pas à ce moment-là erroné. À partir de là, nous allons essayer d'analyser de façon plus subtile, justement, les neurones de la substance noire dans à la fois la notion d'émergence de satisfaction et de plaisir, et ensuite dans le codage de la certitude ou de l'incertitude. Voilà des enregistrements neuronaux de la substance noire, des neurones dopaminergiques. C'est le travail d'un très grand neurophysiologiste actuel qui s'appelle Wolfram Schultz, qui est véritablement celui qui a travaillé le plus sur l'activité des neurones de la substance noire, chez le singe éveillé. Et bien là, on a un neurone de la substance noire qui, vous voyez, a une activité de base qui est relativement faible. Les neurones de la substance noire sont des neurones qui déchargent spontanément à 0 à 5 impulsions par seconde. Ils ont une fréquence de décharge faible, top, 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 top. Et ils libèrent chaque fois des quantas de dopamine. Ici, nous avons un spécialiste, François Gonon, qui connaît très bien ça, qui a étudié de façon remarquable les liens entre activité électrique et libération de dopamine. Eh bien, si vous donnez à l'animal, alors que vous enregistrez comme ça des neurones, là, il y a plusieurs neurones qui sont enregistrés, il y en a 35, mais ils ont le même patron de décharge, vous voyez, la récompense, eh bien le neurone se met aussitôt à décharger. Vous envoyez la récompense, le neurone décharge. Voilà. Donc, il code l'arrivée de la récompense. La valeur hédonique est codé dans le système. Si maintenant vous créez une contingence entre cette récompense et un signal précurseur, ici, l'animal va se trouver face à un bouton type warning qui va s'allumer et il va devoir à ce moment-là appuyer sur le bouton. Eh bien, dès lors que le temps qui sépare le moment où l'animal doit appuyer sur le bouton allumé et la survenue de la récompense, dès lors que ce temps ne varie plus, est le même, eh bien, le neurone va décharger pour l'apparition du signal. Et il ne déchargera plus pour l'obtention de la récompense. Il y a eu un transfert de la valeur motivationnelle vers le premier signal, vers le signal prédictif. Vous avez un transfert. C'est-à-dire qu'il y a une prédiction de la récompense. On est là dans un signal d'anticipation qui précède très largement la survenue de la récompense. Si maintenant vous mettez un signal devant le signal, eh bien, le transfert va se faire vers ce premier signal. C'est-à-dire que le neurone va décharger ici, il ne déchargera plus là, il ne déchargera plus lorsqu'il recevra la récompense. Il y a eu donc un transfert complet de la valeur prédictive de la récompense. L'animal est dans une situation à partir d'un premier signal d'attente, d'expectative, de désir tourné vers la récompense. Et si par hasard, la récompense est un peu décalée par rapport au moment où elle doit survenir, immédiatement, le neurone va faire comme s'il n'avait jamais su cela, il va se mettre à décharger. C'est ce que l'on appelle l'erreur de prédiction. En d'autres termes, l'erreur de prédiction doit faire que la récompense survienne exactement après un temps précis suivant la présentation du signal. Sinon, vous allez avoir un cafouillement dans l'analyse du neurone. Il ne va pas recevoir la récompense au moment attendu, c'est ce qu'on dit « expected and actual », il y a un décalage entre ce qui est attendu et ce qui est réel, et immédiatement, le neurone se met à décharger. Par contre, avant tout le transfert prédictif, l'anticipation s'opère sur le premier signal. Vous voyez quand même que ça s'atténue à distance. Mais enfin, ça veut dire qu'on peut faire marcher les gens longtemps avant, sur l'espérance. Et vous savez qu'il y a des publicistes qui ont parfaitement intégré ce genre de choses. Ça marche. Ça marche. Tout reste à savoir jusqu'où ça marche. Diapositive. Mais nous allons regarder maintenant des problèmes qui sont encore plus liés à une analyse fine, certitude, incertitude, probabilité, dans la construction, je dirais, des trois types d'exemples que nous allons prendre entre recherche du plaisir, espoir de bien-être et de normalité, espoir de bien-être par la guérison, espoir de plaisir en soi. Je ne parlerai pas de l'addiction, mais je parlerai un peu du pari et du jeu. Nous avons là de nouveau un neurone et des neurones de la substance noire. Nous venons de voir que si vous envoyez la récompense, le neurone décharge. Et là, Schultz, il a imaginé plusieurs situations. Une situation où la probabilité d'obtenir la récompense est zéro, il y a un signal pour ça. Une situation où elle est de 0,25, de 0,5, de 0,75 ou de 1. Là, la probabilité est totale et U est nulle, l'incertitude. De même, ici, U est nul. Par contre, dans cette échelle, il y a une incertitude graduée, et l'incertitude maximale, c'est à 0,5. À P0,5, U est égal à 1, puisqu'on est dans un système complètement incertain, pas complètement incertain, mais certes incertain au maximum pour l'expérience donnée. Eh bien, on peut voir que, et là, c'est intéressant de mieux le regarder ici, puisqu'il y a plusieurs neurones qui sont rassemblés, on peut voir donc que pour P0, bon, les neurones ne sont pas idiots. Les neurones ne déchargent pas. Vous leur montrez un signal, et ce signal indique qu'il n'y aura rien au bout. Le neurone ne décharge pas. Pourquoi voulez-vous qu'il décharge ? Puis vous montrez un signal où la probabilité est de 1, l'incertitude est de 0, le neurone décharge au maximum pour le signal. C'est un bon neurone de la substance noire. Et vous allez avoir des états intermédiaires pour 0,25 et 0,75. Mais je veux surtout m'intéresser à cette situation, qui est la situation d'incertitude maximale. P égale 0,5, U égale 1. Eh bien là, certes, il y a la réponse phasique au signal contingent. Il y a la réponse phasique. Mais beaucoup plus intéressante est cette réponse-là, qui est une réponse d'augmentation progressive d'activité, une augmentation tonique d'activité qui cesse brutalement au moment où doit survenir la récompense. Elle survient ou elle ne survient pas, une fois sur deux. Mais dans les deux cas, le neurone, il fait le pari. Le neurone, lui, il fait le pari, c'est-à-dire que l'animal est dans un état de tension dopaminergique, d'espoir d'obtenir la récompense, même s'il y a incertitude. N'est-ce pas ? Et ça, c'est particulièrement intéressant, parce que, comme je vous le disais tout à l'heure, et François Gonon vous le dirait mieux que moi, il y a une libération, la phasique brutale, il y a un pulse de dopamine important, mais là, il y a un bain de dopamine, c'est un état de tension dopaminergique, comme quelqu'un qui attend quelque chose, que l'on va retrouver tout à l'heure dans ce que j'appelle la recherche du bien-être pour la guérison, ou la tension qui existe chez le joueur, ou l'addictif, ou le sujet qui est en situation d'addiction. Donc, ces neurones vont coder non seulement la valeur hédonique, vont transférer ceci vers un signal, mais en plus vont prendre en compte la notion d'incertitude. Et on voit bien que dans l'espoir, il y a une connotation d'incertitude, l'attente, le souhait, l'expectation. Diapositive suivante. Et ceci, par exemple, va se répercuter. Ceci, c'est un très beau travail qui est fait par quelqu'un du laboratoire qui s'appelle Thomas Borot, où, par des enregistrements multicanaux multisites, il va enregistrer deux régions des noyaux gris centraux dans les réseaux que je vous ai montrés tout à l'heure, à la fois le striatum et le GPI. C'est des nouvelles techniques d'enregistrement qui permettent d'avoir des enregistrements simultanés d'un grand nombre de neurones. Et là, il va jouer sur deux choses. Chez le singe, il est entraîné à faire des mouvements directionnels, soit vers des losanges, des croix, et en plus, il y a une connotation de probabilité d'obtenir la récompense. Donc il y a deux éléments. Il y a un élément motivationnel et un élément directionnel qui nécessite une analyse de type cognitif et pas du tout de type motivationnel. Eh bien, on voit que le renforcement va se faire obligatoirement dans la direction de plus grande probabilité, et on va voir que l'augmentation d'activité qui est en opposition de phase entre le striatum et le GPI se fait ici, et que c'est ce circuit-là qui va être renforcé, donc ce mouvement-là qui va être renforcé dans le comportement dirigé vers un but, et non pas ce mouvement-ci qui serait dirigé vers autre chose. Donc, il y a dans la construction du comportement désirant une mise en harmonie, en tension par le système dopaminergique de l'ensemble du noyau des noyaux gris centraux, et nous allons le voir aussi du cortex. Donc, premier exemple, finalement, le fonctionnement normal du système, avec, en l'occurrence ici, la gratification de l'action, c'est-à-dire l'action qui se renforce, c'est celle qui va donner le plus de gratification, qui est la plus désirante, celle qui est la plus espérée, celle qui est la plus motivée et motivante. Deuxième exemple, le bien-être par la guérison, ou vers la guérison. Ici, il s'agit d'un travail fait chez les parkinsoniens avec l'étude de traitement en contrôle ou en placebo, en effet, en recherche de l'effet placebo, bien sûr, en double blind. L'idée des auteurs, Fernandez et Fuentes, a été de regarder le binding, c'est-à-dire la liaison d'une substance qui s'appelle le raclopride, qui est un antagoniste des récepteurs dopaminergiques, un peu comme les neuroleptiques, hein, au niveau du striatum, c'est-à-dire des noyaux gris centraux, en posant comme principe que ce ligand, cette substance est capable de se lier au récepteur dopaminergique D2. Et elle a une grande affinité pour les récepteurs D2. Si vous la marquez, et si vous faites des études en caméra à positon, vous allez voir votre raclopride, qui s'est fixé sur les récepteurs D2 au niveau du striatum. Et vous allez pouvoir quantifier l'importance de cette fixation. Cependant, il y a des substances, et en particulier la dopamine, qui est le neurotransmetteur naturel, qui a une affinité beaucoup plus grande que le raclopride pour les récepteurs dopaminergiques, D1 ou D2. En d'autres termes, s'il y a de la dopamine, un peu ou beaucoup de dopamine, c'est toujours la dopamine qui aura la prévalence, qui sera plus affine et qui se fixera d'abord sur les récepteurs D2 plus que le raclopride. En d'autres termes, s'il y a de la dopamine un peu, beaucoup ou moyennement, eh bien, la quantité de ligand de raclopride qui se fixera sur les récepteurs D2 sera moins grande. Eh bien, si vous regardez l'étude ici sur les contrôles et sur les patients traités placebo, vous voyez que eh bien, la quantité de raclopride se fixe moins, le pourcentage de fixation est plus faible chez les patients placebo que chez les patients contrôle. Et cela va de 16 à 21% de moins. En d'autres termes, cela veut dire que chez les patients placebo, il y a d'une certaine façon une augmentation de la libération de dopamine endogène qui diminue la quantité de raclopride qui va se fixer sur les récepteurs dopaminergiques. Diapositive suivante. Si l'on regarde une autre façon d'exprimer les résultats, ici vous avez le noyau codé, ici une autre partie du striatum, c'est le putamen, c'est trois coupes. Là, vous avez donc le binding, c'est-à-dire la liaison du raclopride. Ici, c'est chez les patients contrôle, c'est ici le groupe placebo, patients qui reçoivent le placebo et patients qui reçoivent le traitement standard, par exemple de la L-DOPA ou en général on donne plutôt des agonistes dopaminergiques. Bien. Voilà. Eh bien, vous pouvez voir que ce sont les patients qui sont traités, entre guillemets, par le placebo qui ont le taux de fixation le plus faible de raclopride, que ce soit au niveau du noyau codé ou au niveau du putamen. Ceci indique donc que chez les patients placebo, il y a une augmentation significative de la dopamine et que cette augmentation significative de la dopamine, des neurones restants, parce que les neurones restants, bien sûr, c'est des parkinsoniens qui ne sont pas avec un système dopaminergique complètement mort, évidemment. Et que, donc, ces neurones restants libèrent davantage de dopamine dans cette situation placébique. Tout se passant comme si le fait d'avoir le placebo et autre chose dans le groupe placebo créait un espoir, mettait le sujet dans un état d'espérance, de tension, un peu comme ici, finalement, ne connaissant pas un des deux médicaments et se disant peut-être que celui-là va mieux marcher que les médicaments habituels. Car le médicament habituel, lui, il sait ce qui, implicitement, il sait ce qu'il va faire. Il donne des effets, mais il est habitué. Tandis que la création du doute et de l'espoir, la création de l'ambiguïté, c'est bien de créer l'ambiguïté, ça suscite la motivation. Il n'y a rien de mieux que l'ambiguïté. Donner des certitudes aux gens, c'est épouvantable. Il n'y a plus de doute. Il faut créer l'ambiguïté pour créer de la motivation et de l'espoir. C'est un peu dramatique ce que je dis là, mais ça marche comme ça. C'est ça. Bon. Donc ça veut dire que dans cette situation particulière, très particulière, le sujet se projette à l'espérance d'une amélioration de son état. Et vraisemblablement, on a pris le cas du Parkinson, il faudrait faire ce genre d'études sur n'importe quel médicament en double blind, car il n'y a aucune, n'est-ce pas, Guy Simonet, il n'y a aucune raison que ce soit parce que c'est le Parkinson. Car la libération de dopamine par l'expectation de l'amélioration, de la récompense, du bien-être, elle se fera aussi bien pour un médicament à visée anticancéreuse, à visée antidiabétique, je ne sais pas. Mais c'est un signe majeur, c'est la traduction majeure d'une manifestation objective, naturelle, d'un processus biologique qui tend à créer une tension, un espoir. Et nous arrivons à la dernière situation qui nous amène petit à petit vers le jeu. Donc nous avons vu que notre singe, soit il reçoit une récompense codage de la valeur hédonique, soit on crée une contingence avec la récompense des charges phasiques, 0, 5, 1, voilà la situation fabuleuse de l'ambiguïté. C'est cette situation-là qu'il faut créer pour motiver les esprits. Motiver les esprits par le doute, par la crainte, par l'espoir. C'est quand même un programme dangereux, mais bon, néanmoins c'est vrai. Et inversement, pas de récompense, bien sûr, rien du tout, vous vous retrouvez dans la même situation que la situation contrôle. Alors nous allons regarder, justement, comment, dans des situations de jeu, on peut détecter l'intervention de ce système dopaminergique mésocortical, mésolimbique, qui va mettre en cause à la fois le système striatal et le système cortical. Ce travail est dû à une équipe de Lyon, dirigée par Angela Sirigu. Le sujet, ici, se trouve, lors du paradigme expérimental, dans la situation où il va avoir devant lui un écran avec, je dirais, deux roues gagnantes, deux roues d'un loto. Dans un cas, ça peut lui rapporter 200 euros ou lui coûter 200 euros. Dans l'autre cas, 50 euros peuvent lui être donnés ou au contraire, lui être demandés. Il doit choisir, appuyer sur un bouton et encadrer par un carré vert, l'une des deux situations. Déjà, vous voyez les gens ambitieux, moins ambitieux, etc. Bref. Et ensuite, le système est lancé et l'aiguille indique que là, il a gagné 50 euros. Nous sommes ici dans une première situation, une sous-situation de l'expérience, qui est dite en feedback partiel, parce que le sujet n'a que le résultat, il a gagné ou il a perdu. Et il y a deux encore segments dans cette situation, soit le sujet est agent, c'est lui qui choisit, qui appuie sur le bouton qui encadre, c'est la situation « choose », et ça, c'est très important, car ça fait ressortir la notion d'agentivité, de responsabilité. Et par ailleurs, il y a la situation follow, c'est l'ordinateur qui fait tout à la place du sujet. Donc, première situation. Et deuxième situation, grande situation, c'est le feedback complet. Donc, même paradigme ici. Ici, nous avons également le choix par le sujet. Mais là, au moment des résultats, on va au résultat, eh bien, là, il aurait gagné 50 euros, mais on lui montre ce qu'il aurait pu gagner s'il avait joué l'autre. N'est-ce pas? Et il voit qu'il aurait pu gagner 200 euros. Donc, nous sommes dans une situation autre, bien autre. Diapositive suivante. Alors, que se passe-t-il? Alors, tout d'abord, gagner-perdre. Gagner-perdre. Eh bien, gagner-perdre, il y a une région qui s'active en IRM fonctionnel, c'est le striatum ventral, c'est le noyau accumbens, si cher à l'équipe de Lemoyle, Simon, Stinus, Martin Cador, n'est-ce pas, qui sont vraiment de grands spécialistes en la matière, hein, c'est le noyau accumbens. Et vous voyez que l'activité en termes d'activation au niveau de l'IRM, elle est dans un sens positif si le sujet gagne ou si le sujet perd. C'est même plus important si le sujet perd. Et voyez le rôle de l'agentivité. Hein? Choose. C'est là que cela apparaît. Follow, quand on met le sujet dans une situation où il n'y est pour rien, il y a un petit quelque chose quand même. Bon, naturellement, bon, il prend ou prend pas. Mais bon, il se sent en tout cas moins responsable. Même s'il perd, il n'est pas responsable. Hein? Tandis que là, vraiment, bon, et c'est là, vous voyez la notion de la fameuse équation de Rescorla-Wagner, c'est-à-dire entre ce qui est attendu et ce qui est réel, expected and actual. C'est le différentiel entre les deux, l'analyse comparative entre les deux. Voilà pour win and loss simple, pour le feedback simple, partiel, diapositive suivante. Dans le cas de l'autre donnée, c'est-à-dire feedback complet, c'est une autre région qui va s'activer dans un sens comme dans l'autre, et surtout lorsque le sujet va regretter. Dans l'autre cas, on dit qu'il est déçu, c'est la déception simple. Là, il va regretter. Eh bien, c'est la région orbitofrontale qui s'active. C'est la région orbitofrontale, cette région extrêmement importante du cortex préfrontal. Diapositive suivante. Et vous pouvez voir ici l'activation de cette région et là l'expression encore de ce phénomène en termes d'histogramme et là la courbe qui montre que, eh bien, avec le regret, c'est-à-dire lorsque le sujet perçoit ce qu'il aurait pu gagner, l'activation de cette région va augmenter. Par contre, eh bien, dans l'autre cas, il est plutôt soulagé. Il est soulagé. Ça rejoint presque le plaisir, le soulagement. D'ailleurs, certains ont montré qu'il y avait de la dopamine dans le soulagement qui était augmenté, mais aussi des opioïdes. Et la dopamine et les opioïdes, c'est très lié, n'est-ce pas ? Et Guy Simonet pourrait vous le dire mieux que moi. Donc, déception ou regret, avec deux structures extrêmement importantes, le striatum ventral, le noyau accumbens, hautement innervé par le système dopaminergique, la région A10, et le cortex orbitofrontal, lui aussi hautement innervé par le système dopaminergique, le système mésocortical. Et ceci donc résume l'ensemble de ces données entre le regret, on a choisi d'expliquer le regret, donc qui serait une émotion dont le médiateur est la cognition, le lien entre motivation, émotion et cognition. Et elle est déclenchée par notre capacité à raisonner au plan contrefactuel. L'aspect contrefactuel, c'est essentiellement la différence, le mécanisme psychique qui fait la différence entre ce qui est et ce qui aurait pu, alors que précédemment, c'est ce qui aurait dû. Le singe qui reçoit sa récompense au niveau des neurones dopaminergiques, il sait que la quantité de récompense, on peut la faire varier, certes, mais d'une façon générale, il s'attend à recevoir une récompense particulière. C'est-à-dire ce qui aurait dû, c'est vraiment expected and actual. Là, c'est ce qui aurait pu, c'est beaucoup plus subtil. C'est une connotation analytique, rationnelle, beaucoup plus complexe encore. Et quoi qu'il en soit, cette erreur de prédiction vaut dans les deux cas, aurait dû et aurait pu. Et je voudrais terminer maintenant sur, finalement, l'émergence de l'erreur que cela fait arriver, que cela fait exploser, émerger à la conscience. Dans les deux cas, il y aura détection, si vous voulez, d'une erreur par rapport à une satisfaction qui n'est pas atteinte, par rapport à un désir qui n'est pas assouvi, par rapport à un plaisir qui n'est pas assouvi dans le sens désiré. Il y a une rupture à ce niveau-là. Et pour revenir au schéma, ceci nous renvoie à cette partie-là, à l'erreur. Diapositive suivante. Et ce qui est important, c'est qu'il semble que deux régions du cortex préfrontal soient hautement impliquées, imbriquées, dans à la fois cette analyse de ce qui aurait dû et de ce qui aurait pu, et l'émergence de l'erreur qui doit être corrigée pour justement revenir dans une situation d'espoir et de désir qui va être satisfait. C'est donc cette notion de détection des erreurs qui est particulièrement analysée par la région que l'on appelle le cortex singulaire antérieur, qui est très liée au cortex orbitofrontal, c'est l'aire 24C et 32, qui, vous le voyez là aussi, toujours par ce schéma, est hautement innervé par le système dopaminergique, qui peuvent très bien être étudiés chez le singe, car cette région est très présente chez le singe, et c'est ce que nous faisons dans notre laboratoire avec Thomas Michelet et Pierre Burbeau. Oui. Alors comment arriver à créer des erreurs chez le singe? Comment arriver à cela? Il faut arriver à créer des erreurs chez le singe. Le singe est un animal que l'on motive très bien, le rat aussi d'ailleurs, Mais le singe, on arrive à le motiver très très bien. Et là, on va lui faire associer deux dimensions. Une dimension appétante, un fruit, et une couleur. C'est calqué sur un test chez l'homme qui s'appelle le test de Stroop, où on associe une dimension sémantique, un mot et une couleur. On écrit par exemple rouge de façon banale, on écrit ensuite rouge en rouge, c'est la situation facilitée, et on écrit rouge en vert, il faut dire rouge et pas vert, c'est la situation Stroop dite d'interférence. Et on regarde le temps de réaction chez l'homme ou chez l'animal, et on voit que les deux courbes d'ailleurs sont les mêmes, on voit qu'en situation contrôle, il faut un minimum de temps pour donc dire rouge, rouge. Facilité, c'est très facile. Là, par exemple, banane jaune, le singe, il va tout de suite appuyer sur le bloc jaune pour avoir sa récompense, hein, immédiatement, il ne faut pas longtemps. Là, il apprendra aussi très vite, un peu plus longtemps. Par contre, vous le mettez dans un état de Stroop d'interférence. Ah, ah, banane rouge. Non, banane jaune. Là, il peut se tromper. Et regardez, le temps de traitement central est beaucoup plus long. Ce n'est pas pour autant qu'il ne se trompera pas. Mais il risque, à la fin, peut se tromper, mais il se trompera quand même encore plus. Diapositive suivante. Eh bien, les neurones de cette région du cortex singulaire antérieur sont des neurones d'évaluation. Ils vont à la fois détecter la récompense, mais surtout, ils vont détecter l'erreur. Donc, vraisemblablement, on peut dire que dans des situations d'insatisfaction, de perte que nous avons évaluées tout à l'heure, ou de regret, eh bien, on a une augmentation très importante qui contribue à l'émergence de ce regret, détecté au niveau de l'orbitofrontal et analysé au niveau du cortex singulaire antérieur. Mais ce qui est beaucoup plus intéressant, c'est que ces neurones, lorsque l'on demande à l'animal de faire ce test, ces neurones, dans un premier temps, l'animal va être préparé, on va lui indiquer, attention, le segment du paradigme, la séquence du paradigme va commencer, on lui présente un rond noir qui lui indique, allez, ça va commencer, on va te faire le test. Bon. Donc c'est un point noir qui apparaît. Eh bien, ce qui est important, c'est que ces neurones-là, en général, réagissent. Ils réagissent à ce niveau-là, à l'erreur, à la récompense, surtout à l'erreur, mais ils réagissent aussi au stimulus d'attention. Ils sont à la fois attentionnels, ces neurones, mais aussi évaluationnels. Et on peut voir, c'est là l'élément le plus important qui rejoint le travail précédent, c'est le fait que lorsque l'essai précédent a été un succès, eh bien, la réponse de ces neurones au stimulus attentionnel est nette, mais elle est beaucoup moins importante lorsque l'essai précédent a été une erreur. En d'autres termes, il y a ce que l'on appelle l'effet de l'essai précédent. Si l'essai précédent a été une erreur, insatisfaction, désir non assouvi, regret, déception, eh bien, le signal attentionnel ici aura un effet plus important sur le signal d'attention que si l'essai précédent a été un succès. Et ce qui est très important, c'est que les chances, diapositive suivante, les chances dans ces conditions d'avoir un essai réussi avec un signal attentionnel ainsi plus important sont beaucoup plus grandes, au moins 30% plus grandes. Donc vous voyez, si c'est un succès, le signal attentionnel sera faible, il y aura une chance plus importante de faire une erreur. Mais après une erreur, le signal attentionnel sera plus grand, il y aura moins de chances de faire une erreur. Ce sont des neurones qui tirent profit de l'échec. Peut-être que certains sont dépourvus de ces neurones, peut-être, mais ça fait partie du syndrome frontal. Hein, c'est, dans le syndrome frontal, il y a de la persévération, la persévération dans l'erreur. Je dis bien le syndrome. Donc, on peut dire que c'est un ensemble qu'il faut voir. Et ce cortex, je vous l'ai dit, est aussi puissamment innervé par le système dopaminergique. C'est donc un ensemble qu'il faut voir entre le système dopaminergique, ensuite les noyaux gris centraux, que cela soit la partie motrice ou que cela soit la partie limbique, le noyau accumbens, et ce bloc très important, cortex orbitofrontal et cortex singulaire antérieur. C'est cet ensemble qui va bâtir, finalement, nos réponses dans une organisation, dans une représentation graphique de ces différents états qui vont, ici, dans les stimulations, ou les stimulus, ou les stimuli de base, très positifs, qui vont jusqu'à l'ectasie, la terreur, et le mélange, les effets de contre-carrement entre les deux dans un sens ou dans l'autre, eh bien, on va voir que la motivation, le désir, l'espoir vont se trouver par ici, avec le soulagement ici. Et alternativement, le regret va se trouver après la crainte. On aurait même pu mettre la déception par là, avec, bien sûr, tout ce qui est désagréable et frustrant. Donc c'est un jeu subtil entre ces différents éléments à valeur à la fois motivationnelle, émotionnelle et cognitive, qui implique la détection d'éléments très liés aux besoins et aux plaisirs, mais aussi à des analyses subtiles d'incertitude, de certitude, de prévision, de prédiction. C'est cet ensemble qui va de l'espoir, du regret à l'espoir et alternativement. Et on peut dire, sur ces IRM fonctionnels de Damasio, que soit on peut aller, nous l'avons vu, vers la joie, et on verra à ce moment-là le cortex singulaire antérieur qui sera activé, mais aussi sa partie postérieure qui est plus limbique. Donc finalement, la détection de l'erreur dans le bon sens et la satisfaction. Et on verra cette allégorie très belle du jardin, n'est-ce pas, hein, la satisfaction, le bonheur. Ou alors, eh bien, la tristesse avant la mélancolie, où là, nous verrons le cortex orbitofrontal s'activer, et beaucoup moins le cortex singulaire antérieur. C'est ce que nous avons déjà perçu dans le regret. Et il est sûr qu'on voit bien sur ces IRM où les relations ont été faites non plus sur des segments du regret, sur des segments de la motivation ou de l'émotion, mais sur finalement un état général qui sera passé par des étapes, par la planification de l'action réussie ou non réussie, on voit bien qu'on retrouve toujours ces régions hautement innervées par le système dopaminergique, et surtout, on voit que dès lors qu'on va encore dans des niveaux intégratifs plus élevés, ce n'est plus qu'une région qui s'active, et ça sera bien là le problème de l'IRM fonctionnel et de la neuroimagerie en général, c'est-à-dire qu'on sort de la néophrénologie actuellement. Il y a des gens qui font de la néophrénologie qui veulent refaire ce qu'ont fait Von Economo, ce qu'a fait Brodmann, ce qu'ont fait tous ceux qui ont fait de la catégorisation, qui ont recherché les qualia, les aspects monadiques du fonctionnement neuronal. Et alors que désormais il faut aller vers des réseaux, il faut aller vers des ensembles distribués, avec des zones de prévalence bien sûr, mais des zones qui sont parallèlement distribuées. Tout se passe partout avec une wavelet qui dans un endroit est plus importante. Mais bien sûr que tout le monde est informé. Et à ce moment-là, on aura bien sûr jusqu'à la mélancolie, au désespoir, le tableau de Munch, n'est-ce pas, jusqu'à ce qu'on l'ait retrouvé. Traduit bien d'ailleurs, c'était l'image de sa sœur qui était une grande maniaco-dépressive. Je vous remercie.